Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes avec les neveux de René sur RCF. Nous continuons notre exploration des textes de Pascal. Et là, c'est avec un Pascal jeune, un Pascal enthousiaste que nous commençons à découvrir son œuvre. Et nous avons choisi d'aborder ce texte et cet auteur en conjonction avec une exposition qui a lieu actuellement à la Bibliothèque nationale de France, où les manuscrits des pensées ainsi que le mémorial, donc ce texte que Pascal a écrit pour lui-même pour consigner une expérience dite mystique, sont exposés, donc des textes très rares, et nous invitons évidemment nos auditeurs qui en auraient la possibilité à se rendre à cette exposition. Nous continuerons bien sûr à faire un cycle sur Pascal et sans doute qu'il y aura des reportages, si on peut dire, avec les neveux de René sur l'exposition en question. Voilà. Alors, nous allons donner la parole à Nicolas Lemoine qui va nous rappeler notre discussion de la semaine passée.
Oui, alors nous avons, comme tu l'as dit, abordé Pascal le savant, et notamment Pascal le physicien, comme on dirait aujourd'hui, et donc qui s'est attaché à résoudre la question du vide, enfin du moins de lui apporter une contribution majeure. Donc le problème était le suivant: si vous prenez une petite bouteille d'eau que vous la plongez dans une bassine, que vous la prenez par son culot, et que vous la sortez de l'eau tout en laissant le goulot dans l'eau, bah vous allez voir que l'eau reste dans la bouteille. Alors comment est-ce que les anciens, notamment Aristote, comprenaient ce phénomène? Bah, ils disaient que la nature a horreur du vide, parce que si la colonne d'eau ne montait pas, il y aurait du vide au fond de la bouteille, et ça c'est pas possible, parce que notamment Aristote avait l'idée que la matière était continue et que le vide pouvait pas exister. Alors, le problème, c'est que donc au XVIIe siècle, on observe expérimentalement que l'eau peut pas monter indéfiniment une colonne, et que si on prend une bouteille très longue, une dizaine de mètres
et quelques pieds,
et quelques pieds, c'est ça, eh bien, l'eau va arrêter de monter, et on va avoir donc au-dessus de la surface de l'eau quelque chose. Ben, on ne sait pas ce qu'il y a dedans justement. Hein, c'était la question à l'époque. Est-ce que c'est des choses qui passent à travers le verre ou le plastique aujourd'hui? est-ce que c'est de la vapeur d'eau? Est-ce que c'est tout ça? On ne savait pas.
Et la difficulté, c'est qu'on peut pas aller y voir en quelque sorte.
Et c'est ça, oui, c'est ça.
Le fait même d'influer, de mettre quelque chose, détruit ce vide immédiatement.
Et voilà. Et donc Pascal va concevoir l'expérience en disant: si on peut expliquer ce phénomène d'une façon sûre, il n'y a pas de raison d'invoquer des choses mystérieuses comme justement cette horreur du vide. Et donc il va faire une expérience. C'est important, le rapport à l'expérience. À la place de se référer à l'autorité des anciens, hein, ce dont on avait parlé la fois dernière, il va concevoir une expérience. Donc il a l'idée que plus on est bas en altitude, plus la masse d'air est importante, parce qu'il y a plus d'air, donc il a l'idée que l'air est pesant, hein, contrairement à l'idée d'Aristote, pour qui l'air était léger, avait une par sa nature, une tendance naturelle à aller vers le haut. Donc la colonne d'air est d'autant plus pesante qu'on est bas, puisque la colonne d'air est plus haute, et donc si on va en haut d'une montagne, on aura moins de colonne d'air, et donc l'air va moins appuyer sur votre bassine d'eau, plutôt la bassine de mercure, hein. Donc il va faire une sorte de baromètre à mercure avec un réservoir, en dessous un tube en U, de l'autre côté donc la colonne de mercure qui monte jusqu'à ce qu'elle puisse plus monter, et cette hauteur donc va dépendre effectivement de l'altitude, de façon...
Et pour resituer, donc cette expérience a été faite au puits de Dôme, mm-hmm. En Auvergne, par le beau-frère de Pascal, qui s'appelle Monsieur Perry.
C'est ça. Et donc, à la fois par donc ce rapport à la fois à la raison et à l'expérience, hein, qui projette, qui isole un phénomène et qui le quantifie, l'idée de quantification est importante. Donc, il va montrer que si toutes les autres explications ne devraient pas dépendre du lieu où on les réalise, hein, c'est-à-dire l'horreur du vide devrait être la même partout, et alors que manifestement la hauteur limite de la colonne de mercure dépend de l'altitude et donc de la quantité d'air située au-dessus du réservoir de mercure. Et donc, l'idée de la pesanteur de l'air suffit à expliquer le résultat expérimental, alors que l'autre explication l'explique mal, et donc elle devient inutile.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Nicolas, c'est que finalement, nous faisons quotidiennement cette expérience du poids de l'air sur les objets qui nous entourent. Par exemple, lorsqu'on va en avion et qu'on voit qu'une bouteille fermée se déforme.
Quand on prend un paquet de chips, c'est qu'on monte un col très élevé, le paquet de chips gonfle.
Ah oui.
Il faut faire attention d'ailleurs.
Ça peut exploser. Et je pense aussi aux personnes qui préparent des confitures, des pots de confitures. Quand ma mère prépare des confitures et qu'elle referme pendant que c'est chaud, ça se refroidit. Donc on a plus de mal à ouvrir le pot de confiture lorsque le pot s'est refroidi. Et quand je demande à ma mère qu'est-ce qu'il y a dedans, elle me dit il y a du vide. Alors est-ce que c'est vrai qu'il y a du vide dans
La densité d'air est effectivement moins forte dans le pot de confiture qu'à l'extérieur.
Mais ce n'est pas du vide.
Bah, le vide, c'est compliqué, c'est quand même un cas limite, parce qu'en fait, même dans le baromètre, en fait, les anciens avaient pas tout à fait tort.
Ah, puisque, donc,
au-dessus du ménisque, le liquide s'évapore un petit peu, et on a des molécules de gaz, donc qui sont, si on veut, dans le vide, mais on a quand même de la matière au-dessus du ménisque, de la vapeur, jusqu'à atteindre la pression de vapeur saturante.
Donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que, lorsque Pascal, aidé en cela de l'édifice qui a été posé par Descartes, va oser contredire Aristote. On va lui dire, non, mais mon pauvre ami... Bon, alors, Descartes, déjà, on peut le rappeler, hein, c'est quelque chose aussi qui est rappelé par Jean Beaufret dans ce texte qui s'appelle Pascal Savant. Descartes, lui, est un partisan du plein, entre guillemets. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a pas de vide.
La matière est continue.
Et la matière est continue. Cela dit, je comprends pas encore très bien pourquoi la matière est continue chez Descartes, parce qu'il y a aussi des sphères. La matière, elle est faite de sphères. Mais entre les sphères, il y a d'autres sphères. Enfin bon, ça, c'est un problème qu'on pourra étudier. Mais toujours est-il que lorsque Pascal dit que dans son tube, il y a du vide, nous, habitants du 21e siècle, on sait qu'il se trompe, alors c'est bien ça ce que tu nous dis.
Bah, après, on est revenu effectivement à l'idée que la matière elle-même, même la matière solide, c'était un petit peu de matière concentrée dans des sphères toutes petites, et puis du vide tout autour.
D'accord.
Ouais. Donc, l'image qu'on donne souvent, c'est si vous prenez un atome, vous avez le noyau qui concentre à peu près toute la masse, qui est comme une balle de tennis au milieu d'un stade de foot. La taille de l'atome, donc avec toute l'espace rempli, enfin occupé par le nuage électronique autour, c'est l'équivalent d'un stade de foot. Et le noyau, donc qui concentre à peu près toute la masse, c'est à l'échelle, c'est une balle de tennis dans un stade de foot. Et donc, la matière, c'est essentiellement du vide avec des petits points de matière dedans.
Oui, mais même ces petits points de matière, finalement, on les voit jamais. C'est-à-dire, qui a vu un électron, qui a vu un noyau, c'est que ces choses-là?
Ouais, c'est compliqué.
C'est compliqué. C'est-à-dire, on dit qu'il y a du vide entre le noyau et l'électron, mais on n'a jamais été regardé.
Ah, il y a une expérience qui est célèbre qui a été faite pour ça. Hein. C'est-à-dire que on envoie des particules alpha, donc des noyaux d'hélium, des particules chargées. On les envoie à travers une feuille d'or, hein, c'est l'expérience de Rutherford. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on observe, donc derrière, on met une plaque phosphorescente, donc qui permet de matérialiser l'arrivée des particules alpha. Hein, quand à chaque fois qu'une particule alpha arrive, on voit quelque chose qui phosphore. Et ce qu'on voit, c'est que le faisceau de particules alpha est quasiment pas dévié. Il passe à travers la matière. Et il y a que quelques petits points qui ont été déviés. Ça, c'est l'expérience fondamentale qui montrait que la matière, c'était essentiellement du vide avec des petits points matériels localisés.
D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est cette expérience où seule une toute petite partie des faisceaux envoyés est déviée nous permet de dire qu'il y a des concentrations, des points de concentration. Mais finalement, il pourrait y avoir autre chose entre le noyau et l'électron qui n'est pas du vide. Ou quelque chose de très ténu. Enfin, je refais un peu le même chose que ce que disait la controverse avec Pascal. On pourrait aussi penser ça, finalement. Quelqu'un qui voit l'univers comme toujours étant rempli, Ton expérience ne contredit pas.
Mais la science est très utilitariste, c'est-à-dire que si on n'en a pas besoin pour rendre compte de l'expérience, alors on s'en débarrasse.
Minimum, ouais.
On ne peut invoquer quelque chose que si ça a des conséquences observables.
D'accord. Si on revient à Pascal et peut-être à des aspects plus métaphysiques, je pense que c'est quand même important de, surtout en fait, d'insister sur finalement le rôle expérimental que donne Pascal à la science.
Du raisonnement et de l'expérience.
Et le fait que l'expérience va permettre d'arriver à la vérité, en fait.
Oui,
enfin,
ce
vérité,
mot,
en tout
mot
cas,
vérité, il est capital, voilà, c'est
alors,
ça qui est
l'expérience faisant partie d'un raisonnement.
Un sujet, oui.
Alors
sujet, on peut citer un petit passage hein, du Pascal savant, là, donc justement,
oui.
Où Pascal dit que tous les disciples d'Aristote assemblent tout ce qu'il y a de fort dans les écrits de leur maître et de ses commentateurs pour rendre raison de ces choses par l'horreur du vide, s'ils le peuvent. Sinon, qu'ils reconnaissent que les expériences sont les véritables maîtres qu'il faut suivre dans la physique.
Ah oui, voilà. Absolument. Donc l'expérience, ce n'est plus Aristote, ça devient l'expérience.
Voilà.
Donc ça,
c'est le maître peut guider, parce que oui. Je pense qu'on peut aborder d'ailleurs le passage justement où Pascal discute du rôle des anciens, de ceux qui nous ont précédés. Je pense peut-être qu'on peut...
Oui, alors qu'est-ce qu'il nous dit des anciens ? C'est-à-dire, Pascal ne dit pas totalement qu'il faut jeter Aristote aux oubliettes.
Absolument pas.
Ou qu'il faut démolir le passé, c'est ça.
C'est ça. Et donc, il y a son texte qui dit « Cependant, il est étrange de quelle sorte on révère leurs sentiments, en parlant des anciens, on fait un crime de les contredire et un attentat d'y ajouter, comme s'ils n'avaient plus laissé de vérité à connaître, comme s'ils avaient achevé... tout ce qu'on pouvait connaître.
Alors, ce qui va être intéressant, c'est qu'il développe plus en avant, dans un autre passage de cette préface au traité du vide, et il nous dit que la science, c'est-à-dire le savoir, hein, le mot science n'a pas encore le mot qu'on lui prête,
oui.
Mais donc la science ajoute progressivement des pierres à un édifice qui se construit petit à petit, et il dit donc, c'est très cartésien. C'est l'histoire des neveux. Il y a quelque chose à développer, et c'est une histoire de temps. Il dit, s'étant élevé jusqu'à un certain degré où ils, ce sont les anciens, nous ont portés, le moindre effort nous fait porter plus haut. Notre vue a plus d'étendue, et quoique ils, les anciens, connussent aussi bien que nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la nature, ils n'en connaissent pas tant néanmoins, et nous voyons plus qu'eux. Voilà, c'est-à-dire, il suffit de faire un tout petit pas au-dessus d'eux pour voir plus loin. Et ça, c'est remarquable. C'est très neveu de René, en quelque sorte. Okay. C'est-à-dire, il y a cet enthousiasme qu'on va voir toujours plus.
Et l'idée, donc, il n'est pas illégitime de vouloir dépasser les anciens, parce qu'ils n'ont pas achevé la science, parce qu'ils n'ont pas une connaissance achevée, mais en même temps, il était tout aussi idiot de refuser leur héritage. Parce que si nous sommes capables de faire plus qu'eux, c'est parce qu'on, justement, nous sommes leurs héritiers,
Le problème de refuser l'héritage, c'est de ne pas avancer, parce qu'on réinvente la roue sans arrêt. Quoi.
Exactement, oui.
Donc on stagne.
Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, je vous la pose, puisque nous sommes tous trois, non pas des professionnels de la philosophie, mais ce qui nous intéresse, c'est comment la philosophie nous questionne dans notre pratique quotidienne, mais aussi dans notre pratique professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le système inverse ? À savoir, aujourd'hui, on est toujours à bousiller tout héritage passé. C'est-à-dire, c'est Jean-Marc Lévy-Leblond qui dit quel est le scientifique qui a lu un texte de Poincaré, un texte de Turing, etc. C'est-à-dire, nous sommes des scientifiques, des physiciens, des informaticiens, des chimistes, mais on n'a jamais lu les textes qui sont donnés par les anciens.
Alors,
équations.
On n'a pas lu peut-être ces textes-là, mais les chercheurs aujourd'hui lisent, s'appuient sur des articles de travaux précédents, et ces travaux eux-mêmes s'appuient sur, et ainsi de suite.
Et des ouvrages de synthèse, c'est-à-dire
donc
que
il y a quand même une continuité, il y a quand même une progression de la connaissance et de la science par des acquis précédents.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que les acquis sont totalement coupés des auteurs.
Certains auteurs qui ont peut-être effectivement ouvert des disciplines ou ouvert des questions importantes. Mais après, ces auteurs eux-mêmes ont été repris par d'autres, et ainsi de suite. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une chaîne, d'une certaine façon. Et on ne lit pas forcément le premier maillon de la chaîne, mais on lit l'avant-dernier.
On lit l'avant-dernier. Et c'est ça qui est curieux.
Et on essaye d'être le dernier.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a perdu, c'est le raisonnement et le point de départ de l'époque. Et ce qu'on a gardé, c'est la synthèse des résultats.
Oui.
Qui ont été reformulés autrement souvent.
Mais donc il y a une sorte de violence dans tout ça. C'est-à-dire, j'aime bien quand Sylvain dit, il faut être le dernier. C'est-à-dire, on n'arrête pas d'être tout le temps en vouloir finalement gommer les autres pour se placer, mais finalement c'est un peu warholien, c'est un peu Andy Warhol, c'est-à-dire il faut avoir son quart d'heure de gloire et puis quelqu'un d'autre va venir et donc moi je pense que lire Pascal est intéressant parce que ça nous questionne aussi sur notre façon de faire de la science et son éphémère, son caractère éphémère. Je pense qu'on a été trop loin dans l'application de cette non-révérence du passé. Voilà, ça c'est mon point de vue.
Ouais, mais là je pense que tu as une interprétation quand même assez un peu psychologique là pour le coup sur ce que fait le chercheur et les motivations du chercheur. La plupart des chercheurs, je pense, ont vraiment une curiosité de découvrir des nouvelles choses, mais c'est pas forcément tout de suite avec un but de devenir célèbre ou je ne sais quoi. Enfin, parce que là, ce que tu dis, c'est un peu ça. C'est il faut avoir son quart d'heure de gloire.
Oui, je le dis.
Il est clair qu'un chercheur va, s'il fait de la recherche et qu'il espère trouver quelque chose de nouveau. Mais après, les motivations, enfin, tu vois, c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire effacer ce qu'il y a eu avant. Ça veut pas dire je suis meilleur que les autres ou je sais pas quoi. Enfin, c'est pas forcément ça non plus, quoi. Enfin, il y a plus une curiosité de découverte.
D'accord. Bon, on va faire une petite pause musicale et on reviendra à Pascal pour voir comment il éclaire notre temps aussi.
Espoir et leur chagrin. Si tous les gars du monde devenaient de bons copains et marchaient la main dans la main, le bonheur serait pour demain.
Ne parlez pas de différence, ne dites pas qu'il est trop blond ou qu'il est noir comme du charbon. Ni même qu'il n'est pas né en France.
Aimez-les n'importe comment, même si leur gueule doit vous surprendre.
Vous êtes avec les neveux de René Chemin de Pensée sur RCF. Vous êtes en compagnie de Nazim Fattès, Nicolas Lemoine et Sylvain Contasso-Vivier. Donc, nous allons revenir à ce texte que nous sommes en train d'étudier, qui est un texte très court, qui est la préface au traité du vide. Donc, nous avons essayé de dégager les enjeux scientifiques, les enjeux de connaissance qui avaient lieu au traité du vide, mais aussi les enjeux métaphysiques, c'est-à-dire en quoi une expérience de colonne d'eau ou de colonne de mercure traite finalement de quelque chose de profond qui a traversé les siècles, qui est le rapport aux anciens. Alors, nous continuons peut-être la lecture de cet extrait, et un moment capital où Pascal va donner non seulement une vision scientifique, donc on l'a dit, mais aussi une vision de l'être humain dans sa totalité.
Voilà, de la transmission de connaissances.
Oui.
Donc je cite... N'est-ce pas indignement traiter la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'on en ôte la principale différence, qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu que les autres demeurent toujours dans un état égal? Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesurées il y a 1000 ans qu'aujourd'hui, et chacune d'elles forme cet hexagone aussi exactement la première fois que la dernière. Il en est de même de tout ce que les animaux produisent par ce mouvement occulte. La nature les instruit à mesure que la nécessité les presse. Mais cette science fragile se perd avec les besoins qu'elles en ont. Comme ils la reçoivent sans étude, ils n'ont pas le bonheur de la conserver. Et toutes les fois qu'elle leur est donnée, elle leur est nouvelle, puisque la nature n'ayant pour objet que de maintenir les animaux dans un ordre de perfection borné, elle leur inspire cette science nécessaire toujours égale, de peur qu'ils ne tombent dans le dépérissement et ne permet pas qu'ils y ajoutent, de peur qu'ils ne passent les limites qu'elle leur a prescrites.
Voilà. Alors, ça, déjà, on va faire une petite pause et commenter ces choses, cet extrait. Donc, il nous dit « La nature instruit les animaux à mesure que la nécessité les presse, mais cette science fragile se perd avec les besoins qu'ils en ont, comme ils la reçoivent sans étude. » Donc, il dit « Il faut surtout pas mettre les êtres humains au même rang que la nature. » Ça, ça nous choque. Que les animaux, pardon, que, au même rang que les autres créatures de la nature.
Oui, bah, c'est-à-dire, effectivement, on pourrait rouvrir le débat sur l'intelligence animale et leur capacité d'apprendre, mais je pense que c'est pas l'objet aujourd'hui du texte.
Disons que là, il se place vraiment sur le point précis de la connaissance et de la, l'accumulation de connaissances. Mmh. Et pour le coup, il a pas tort, parce que l'humain... accumule des connaissances, ce que ne fait que... pas, ce que ne font pas les animaux.
Alors,
en, tout cas,
en partie.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on lit ce texte, le débat s'engage sur est-ce que l'être humain est un animal, est-ce que l'être humain est plus qu'un animal, est-ce que l'être humain n'est pas un animal.
Mais là, c'est
mais
pas
souvent, c'est ça. Mais effectivement, ce que tu dis, Sylvain, c'est qu'on peut trancher là, sans aller dans ce débat, en disant bon, au moins une chose est sûre, c'est que l'être humain est celui de tout ce qui accumule les connaissances. Mmh, voilà, ça. Voilà.
Les animaux, et c'est-à-dire l'idée de Pascal, c'est si on s'en tient à la science des anciens, alors on se comporte comme ce qu'on imagine être la façon dont se comportent les animaux. C'est-à-dire que on a une science finie, on a une science terminée. Oui. Et on redevient,
on redescend dans le stade animal.
C'est ça,
part,
en quelque sorte. Quelque
part. On peut lire la suite de cet extrait, Sylvain ?
Oui. Il n'en est pas de même de l'homme qui n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès. Car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs. Parce qu'il conserve toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises, et que celles des anciens lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils en ont laissés.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire de ce...
Bah, ça ne fait que confirmer ce qu'on disait juste avant. Hein. C'est qu'au final, enfin, en tout cas pour Pascal, et globalement, on peut admettre qu'il n'a pas complètement tort, au moins sur ce point-là, c'est qu'effectivement, l'être humain a cet avantage de pouvoir accumuler des connaissances qui sont transmises de génération en génération.
D'accord. Et ça, c'est ce qui
n'est pas forcément le cas pour les animaux, les autres animaux.
Le point important là-dedans, c'est ce qui fait notre humanité. Nous ne sommes humains...
C'est un aspect de l'humanité.
Non. Alors, lisons la suite. Là, je crois que la suite va nous départager parce que la suite est intéressante.
Alors. Et comme il conserve ses connaissances, il peut aussi les augmenter facilement. De sorte que les hommes sont aujourd'hui en quelque sorte dans le même état où se trouvaient ces anciens philosophes, s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à présent, en ajoutant aux connaissances qu'ils avaient celles que leurs études leur auraient pu acquérir à la faveur de tant de siècles. De là vient que, par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier.
Etc. Voilà. Alors, donc, le mot essentiel dans ce texte, c'est le mot progrès. Mmh. Oui. Mmh. Et donc, il y a quelque chose d'essentiellement enthousiaste.
Ah oui.
Et je veux dire.
Oui, mais c'est pas en contradiction avec l'accumulation de connaissances.
Tout animal social est susceptible d'avoir ce genre de progrès, même s'il est progrès.
Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que Pascal nous présente une vision de l'être humain comme étant quelque part la créature. Mmh. Choisi, élu, peut-être par Dieu, pour être dans ce progrès.
C'est clairement sa vision, oui.
Voilà.
Mais cette vision-là peut être légèrement remise en cause aujourd'hui, puisque les tribus de singes sont capables de progrès, même s'il est beaucoup plus lent que les tribus humaines.
Alors ça fait question. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Pascal dirait si il était parmi nous et il apprenait, effectivement, que nous ne voyons plus du tout l'être humain de cette façon. Mais est-ce qu'on ne devrait pas prendre ça comme définition de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain, c'est ce que nous dira Pascal plus tard dans le texte, ce qui est créé pour l'infinité. Mmh. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est pas ça ?
C'est pas plus tard, il l'a dit au début là quand je l'ai cité.
Ah d'accord.
Oui, on l'a déjà
pardon,
dit.
Excusez-moi, j'ai pas été attentif. Comme quoi, il faut être toujours très attentif. Donc la phrase clé de ce texte, c'est l'être humain créé pour l'infinité.
On peut s'opposer à Pascal en utilisant Pascal.
Oui.
C'est-à-dire que, puisque la connaissance est infinie et que l'homme est fini, finalement, les singes sont guère plus avancés que nous. Enfin, nous sommes guère plus avancés que les singes, plutôt.
C'est-à-dire, redis-moi ça.
Si la connaissance de l'homme est finie par rapport à l'infini,
oui.
Alors finalement, nous ne sommes relativement pas beaucoup plus avancés que les singes.
Oui, mais précisément, dans cette vision pascalienne qui apparaît là, c'est l'homme qui ne cesse de progresser.
Oui.
ensemble, c'est l'humanité, ensemble, sûr, c'est oui, l'humanité alors, comme d'autres. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de si, curieux?
Oui. Alors, il y a un aspect en plus là que effectivement dont Pascal ne parle pas vraiment, c'est que les connaissances, l'ensemble des connaissances humaines, il bouge en fait, il évolue bien sûr, il grandit, mais il bouge, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que grandir. Il se déplace d'une certaine façon, parce qu'il y a aussi des connaissances qu'on a oubliées. Ah. Typiquement, un bon exemple, c'est, alors, qui bien sûr suscite encore beaucoup de recherches, c'est la construction des pyramides égyptiennes, la construction de certaines cités, notamment en Amérique du Sud,
Moi, je connais un exemple aussi, au Maghreb, les constructions traditionnelles dans les montagnes, par exemple de Kabylie, voilà. Tout ça, se perdent. Et lorsqu'il n'y a plus de chauffage, tout ça, eh ben, les gens meurent de froid parce qu'ils ont plus leur mode traditionnel, ils n'ont que des immeubles qui sont faits pour avoir du chauffage. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je vous propose simplement de clore l'émission sur ce point qui est capital, qui est, nous avons vu un Pascal enthousiaste, un Pascal qui présente les êtres humains comme étant capables d'un progrès continuel. Nous avons vu qu'il y a chez lui, à ce moment-là, un oubli de l'oubli, en quelque sorte, c'est-à-dire le fait que l'humanité puisse régresser n'est pas présent encore au XVIIe siècle. Ça doit nous faire réfléchir, et on verra peut-être dans la suite de l'examen de Pascal que c'est un autre Pascal qui va se dégager au fur et à mesure de la maturité. Merci à Dominique Herpelding pour la technique, merci à RCF pour les conditions d'enregistrement des Neveux de René, et nous vous donnons rendez-vous les semaines prochaines pour continuer cette exploration d'un auteur fabuleux qui est Blaise Pascal. Merci, au revoir.